Radio Cité Genève.
L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois un grand peintre, un grand artiste peintre, qui est né à Berne, qui vit à Genève et qui est d'origine espagnole. Il s'appelle Cristóbal Del Puey et je lui dis bonjour aujourd'hui.
Bonjour, ma chère Viviane.
Mais mon cher Cristóbal, je te dis aussi combien la performance que j'ai vue, qui est celle des Ménines d'après Velázquez, m'a impressionné et habité pendant plusieurs jours. Et tu sais, je ne suis pas très facilement impressionnable. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie à mon âge.
Oui, tout à fait, j'imagine bien, Viviane. Oui, merci beaucoup, merci pour ce compliment. Ça me fait chaud au cœur.
Alors, tu as donc toute ta vie peint ou est-ce que ça t'est venu sur le tard?
Non, tout simplement, ça m'est venu quand j'avais 35 ans. Et c'était... quelqu'un m'a proposé de peindre un chien. J'ai peint ce chien. Et par la suite, petit à petit, j'ai compris qu'en continuant à peindre, eh bien, j'ai compris que ça allait prendre une grande partie de ma vie, la peinture. Et j'ai vraiment l'impression actuellement que tout ce que j'ai fait auparavant, avant mes 35 ans, j'ai rien fait. Donc aujourd'hui, je me considère vraiment comme un peintre à part entière.
Tu peux te considérer comme un peintre à part entière. Je me souviens de ton fameux triptyque dont tu nous dis un mot.
Oui, bien sûr, qui a été conçu, je l'ai fini en 2020. Et c'est en 2021, justement, que ce triptyque, que j'ai conçu un mapping.
Alors, on va expliquer ce que c'est qu'un mapping. Mais voilà. D'abord, on parle du triptyque et après, on va expliquer comment il a été embelli, amélioré par le mapping. Donc, d'abord, le triptyque et ses thèmes.
Oui, alors voilà. Alors, le triptyque, c'est quelque chose de très particulier. C'est une sacrée aventure pour moi. Il m'a fallu une année pour concevoir ce triptyque qui s'appelle la rédemption. Bien entendu, comme nous, la plupart des gens, nous avons toujours quelque chose à nous reprocher. Et j'avais l'intention, justement, en faisant ce triptyque, ma rédemption, peut-être à quelque part, de trouver une voie par rapport à ces démons du passé. On peut dire ça comme ça. Et donc, je peins des membres de ma famille. J'ai fait des compositions avec des proches. Et quand j'ai commencé à le peindre en 2020, eh bien, à fur et à mesure que je continuais dans mon travail, dans ce processus, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas maîtriser. On n'avait pas le contrôle dans le travail. Quand on commence à peindre, on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire que petit à petit, la composition a complètement changé. Tout est modifié. Tout est parti dans le décor. Et je me suis retrouvé à peindre quelque chose dont je n'avais aucune connaissance. Bien entendu, j'avais perdu totalement le contrôle de tout ce que je faisais. Et j'ai commencé à angoisser. Il m'est arrivé de passer des nuits à ne pas pouvoir dormir. Mais je n'ai pas eu le choix que de continuer. C'est comme un spectateur qui se trouve devant une scène de théâtre. Et puis pour apprécier la pièce, il doit rester jusqu'à la fin pour connaître la fin de cette histoire. Et ensuite pouvoir apprécier, oui ou non, si ça lui a plu. Eh bien, moi, c'est pareil. J'attends à la fin de mon travail pour savoir si je suis content ou pas. En majeure partie du temps, je ne suis pas très satisfait, mais voilà, la rédemption, il est tel qu'il est, comme je l'ai fini, et je n'ai pas le choix de le laisser tel qu'il est.
Alors, Cristóbal, tu peins des toiles gigantesques sur lesquelles on trouve des personnages, des animaux, des objets, des réminiscences historiques. Ce sont des toiles très colorées auxquelles tu ajoutes des matériaux, du tissu, des plastiques, des miroirs en aluminium, des bouteilles, des boîtes, n'importe quoi. Sur mon portrait à moi, il y a même mes chaussures.
Oui, tout à fait.
Alors, tout à fait. C'est extraordinaire parce que, si tu veux, ça donne une impression, en fait, de sculpture, de peinture-sculpture.
Oui.
Et tu rajoutes le mapping et on va expliquer pour nos auditeurs ce que c'est que le mapping.
Oui, effectivement. Donc, pour revenir à la rédemption... Comme je le disais tout à l'heure, j'avais perdu complètement le contrôle de la composition et du travail. Donc après, par la suite, j'ai eu une idée au cours du travail. J'ai eu l'idée de sortir toutes sortes de photos que j'avais assemblées pendant des années. Des photos, des événements, de toutes ces choses qui se sont passées dans le siècle dernier, témoins de notre époque. Et puis j'ai tout transféré dans le tableau, y compris, comme tu le dis, Viviane, J'ai rajouté du mastic, c'est là que j'ai réellement découvert cette forme de travail, afin de donner plus de force à ma peinture. Grâce à ce mastic acrylique, eh bien, je peux coller des couvertures de lit, je peux coller du métal, de l'aluminium, du verre, du carton, du papier, toutes sortes d'objets. Et bien sûr, à un moment donné, ça fait un certain poids, ça donne une certaine épaisseur.
Ça fait un relief, surtout
un relief
extraordinaire.
Absolument. Tout à fait.
Avec la couleur dessus, c'est impressionnant.
Oui, 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 oui.
Alors, le mapping.
Alors, voilà, le mapping. Bien entendu,
Je sais que tu n'es pas informaticien.
Non, non.
Mais le mapping, ça a quelque chose à voir avec l'informatique.
Oui, tout à fait, absolument.
Alors, tu as fait appel pour le mapping à une société qui sait faire ça.
Oui, j'ai fait l'expérience, justement, pour revenir justement à la rédemption, quand elle était finie. Voilà, j'étais plus ou moins satisfait. Et il y a bien entendu, quand on le regarde, ce tableau de trois panneaux, de 6 mètres de long par 3 mètres de haut, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et pourtant, à ce moment-là, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. J'essaie toujours, quand je peins, de donner certaines formes de vie à mes tableaux. Mais bien sûr, comme il y a toujours la remise en question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais encore rajouter comme forme de vie pour le rendre encore plus vivant? Et alors, j'ai fait une expérience intéressante. Voilà, j'ai découvert le mapping. Et il est vrai que le mapping, c'est un objet, c'est un logiciel, un programme qui est conçu pour les artistes qui font du mapping. Dans le jargon du mapping, on appelle ça les moppers. Voilà.
Alors, c'est le basculement, c'est l'art virtuel et électronique. C'est
oui.
Le basculement dans des représentations et des espaces cybernétiques. Moi, je lis, là, parce que je ne suis pas plus calé que toi en informatique.
Oui.
Alors, tu as la chance d'avoir été entouré par l'équipe du MAPIM Festival.
Tout à fait.
Et ce sont des gens dont c'est la spécialité.
Absolument.
Et ça rend totalement vivant, ton tableau, quel qu'il soit.
Oui.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On va écouter un peu de musique. Qu'on écoute?
Alors justement, on va écouter une musique qui a été composée par une personne à qui j'ai demandé de faire la musique pour ce mapping, Las Peninas Forever, qui est exposée justement à la Galerie Andata di Torino actuellement, jusqu'au 8 juin. Et cette personne, ce compositeur et aussi chef d'orchestre, m'a composé ce genre de musique. Voilà, il s'appelle Nuno Costa, pardon. Et il m'a composé cette musique que Manos allait écouter.
On l'écoute.
À vous d'apprécier.
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Velázquez es el genio supremo. Cada vez más pela. Que Dalí hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o una música como Mozart, la semana siguiente uno se muere.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec le grand artiste peintre Cristobal Del Puey. Cristobal, avec qui j'échange des souvenirs et bien sûr la révélation de ce qu'il vient de faire. Il vient de faire une œuvre extraordinaire qui est une revisitation de Velázquez. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, je veux quand même raconter mon ami Cristobal Del Puey. Tu as mis longtemps à éclore. Tu as dit qu'avant tes 35 ans, au fond, tu ne te souviens même pas de ce que tu as fait. Et tu as mis tout ce temps-là pour devenir le grand artiste que tu es. Tu as un merveilleux atelier dans la campagne genevoise, avec des poules qui caquettent dehors.
Oui.
Et puis un petit potager en permaculture.
Oui, oui, tout
et
à fait.
Et c'est un lieu que tu partages avec quelqu'un qui est merveilleuse, qui est sur ton tableau, qui est souvent sur tes tableaux, et qui est l'une des personnalités, pour moi, les plus brillantes de Genève, c'est Geneviève Morand, ta compagne.
Oui,
et qui est aussi mon amie, ce dont je m'honore. Alors, Cristobal, tu es un personnage très particulier. Tu as vraiment autour de toi un univers, tu as créé un univers, tu vis dans un univers, et tu as su traduire cet univers en couleur, en épaisseur, en spasme, j'allais dire. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et tu rajoutes le mapping. Ce mapping dont on va expliquer que c'est de l'art virtuel et électronique. C'est un peu compliqué à expliquer. Peut-être tu peux expliquer ce qu'on voit sur les façades. Ça serait peut-être ce qui serait le plus proche.
Oui, tout à fait. Alors voilà, Viviane, c'est par un concours de circonstances que je suis tombé sur le mapping. Pour moi, le mapping actuel, ce qu'on voit, c'est un nouveau médium. On pourrait dire un médium virtuel. Et alors, comment est-ce qu'on façonne un mapping? C'est à partir d'un logiciel, d'un programme, qui peut très bien se trouver dans un PC ou dans un Mac. Et bien entendu, ce programme est relié par un projecteur. C'est grâce à ce projecteur qu'on pourra projeter les sons, les lumières et surtout les images conçues par ce programme. Comme justement, Vivien, tu viens de le dire, le mapping, on le voit souvent sur les façades des bâtiments ou bien sur les monuments, sur les fontaines. Ça dépend d'où est-ce qu'on veut les transférer, ces images. Et puis, grâce au programme, on peut donc travailler des images, on peut sélectionner des parties de lumière, des effets spéciaux sur certaines façades, ou tout dépend où est-ce qu'on veut projeter l'image. Dans ces programmes, il y a toute une palette d'effets spéciaux inimaginables. Bien sûr que si la personne qui travaille avec ce logiciel, il est aussi créateur, qui est créatif, voilà. Et bien évidemment, c'est sans fin.
Alors, quand tu as découvert ça quand, le mapping?
Oh, c'était en 2021.
2021. Et depuis, ça t'a hanté, en quelque sorte.
Oui, oui, car grâce au mapping, je crois que ça rend mes tableaux beaucoup plus vivants.
C'est vrai.
C'est comme s'ils avaient une âme. Et par rapport au dire des gens, des personnes qui viennent, les spectateurs qui observent mes mappings, eh bien, effectivement, le retour est très intéressant par rapport à ce qu'ils me disent.
Alors, on va expliquer effectivement qu'il y a une galerie qui existe à Genève depuis 40 ans. C'est pas récent. C'est Joseph Farine qui défriche des talents d'ici et d'ailleurs, on dit. Et sa galerie s'appelle Andata Ritorno. Elle est à quel endroit exactement? Donne l'endroit, comme ça nos auditeurs pourront aller voir. Elle est...
Mon Dieu, elle se trouve donc à la rue du Stand.
Elle se trouve rue du Stand, exactement. On va la trouver facilement parce que tout le monde la connaît à Genève. Et Joseph Farine est un personnage, lui aussi. Je comprends pourquoi les personnages se rassemblent. Alors, qu'est-ce qu'il expose en ce moment de toi, Cristobal? Explique-nous.
Joseph Farine, comme tu l'as dit, Viviane, a fêté ses 40 ans de sa galerie laboratoire Anatel di Torno. Et pour lui, la question de l'avant-garde et du classique est une question très importante pour lui. C'est pour cette raison-là qu'il a accueilli favorablement mon projet, Las Meninas Forever. Toutefois, en prenant le risque osé.
Alors, en prenant un risque osé, pourquoi est-ce qu'il a pris un risque?
C'est par rapport à sa programmation minimaliste quotidienne.
Oui, mais écoute, à partir du moment où cette galerie, je dirais, est fière et avec raison de défricher des talents, il est évident que toi, dont malheureusement le talent n'est pas assez connu ou reconnu, c'est normal qu'il essaie de te programmer. Je pense que là, C'est en quelque sorte un bienfait pour toi, mais c'est un bienfait pour sa galerie aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans sa galerie qui n'y seraient jamais venus si tu n'y avais pas été.
Oui, bien sûr.
Ah mais oui, mais c'est important. Donc si tu veux, c'est en quelque sorte un cadeau mutuel que vous vous êtes fait. Moi, je voudrais que l'on revienne en arrière, parce que je me suis posé la question, pourquoi les Ménines de Velázquez ? Et j'ai lu un texte que tu avais écrit. Tu as dit, j'ai connu certaines images flash de Las Meninas avant même d'avoir vu ce tableau pour la première fois. Notamment l'ombre de l'homme dans l'encadrement de la porte. Et tu as dit que c'était une image ancrée dans ton subconscient d'enfant. Oui, pourquoi? Oui. Tu peux raconter
oui.
ça?
Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai une liaison avec ce tableau très particulière. C'est-à-dire que j'ai vécu dans le tableau avant de connaître le tableau. C'est-à-dire que voilà, j'avais 5 ans et j'habitais avec mes parents dans un appartement à Bâle. Et comme la plupart des petits garçons, j'étais très fasciné par tout ce qui était le feu. Donc je piquais souvent des allumettes à mon père qui était un gros fumeur et je me cachais toujours à quelque part dans l'appartement afin de pouvoir brûler des bouts de papier. Jusqu'au jour où...
Tu as failli mettre le feu ?
Oui, c'est ça. Jusqu'au jour où j'ai failli de mettre le feu dans l'appartement. Alors mon père, pour me punir, il m'a enfermé. Et bon, j'avais 5 ans, je ne me rappelle plus s'il m'a enfermé dans la cave ou dans un vestibule. Mais en tout cas, il faisait nuit noire. Et puis bon, à un moment donné, je me suis endormi. Lorsque mon père est revenu me chercher, il a mis la main sous la poignée pour ouvrir la porte. Ça m'a réveillé. Et bien entendu, le fait de me réveiller, j'étais plus du tout conscient de qu'est-ce que je faisais là et qui était la personne qui allait ouvrir la porte. Et quand mon père a ouvert la porte grande ouverte, j'ai vu justement sa silhouette qui était découpée par le contre-jour. Et ça, c'est une image que mon système cérébral a enregistrée.
Car bien c'est un motif qui se retrouve dans beaucoup de tes tableaux, ça.
Oui, oui. Et bien entendu, tu vois, Viviane, c'est quelque chose. Après, par la suite, je l'ai oublié. Mais beaucoup plus tard, bien plus tard, quand j'ai commencé à justement à bouquiner, à regarder des photos et des brochures sur le tableau des Ménines, parce que c'était quand même un tableau qui m'intriguait, eh bien mon système cérébral a été fouillé dans les fichiers du passé et il m'a mis en face la photo de mon père dans l'encadrement de porte quand j'avais 5 ans. Et alors, bien entendu, je me suis rappelé à ce moment-là. Donc les Ménines, à chaque fois que je vois ce tableau, à chaque fois que je vois au fin fond du tableau cet encadrement de porte avec cette silhouette de cette personne à contre-jour, eh bien, ça me fait rappeler toujours quelqu'un de très familier.
Et puis, tu racontes aussi ta visite au musée du Prado qui a joué un rôle. Lorsque tu as vu pour la première fois les Ménines, les vrais, donc pas une reproduction,
oui.
Tu dis que tu t'es assis en face du tableau et que là, tes larmes ont commencé à couler.
Oui, ça, c'était plus fort que moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle de mes sentiments. J'ai commencé à voir les larmes qui coulaient le long de mes joues. Et alors, pour me reprendre, je me suis dit, mais tu ne peux pas te donner un spectacle, parce que bien évidemment, il y avait beaucoup de monde dans le musée. J'ai dû sortir du musée pour reprendre mes esprits, pour reprendre le contrôle de moi-même. Et une fois que c'était fait, alors je suis retourné al Prado, à l'intérieur du musée, et je me suis retrouvé de nouveau devant les Ménines. Et là, rebelote, de nouveau, j'ai recommencé à pleurer.
Tu dis aussi, rendre hommage, ce n'est ni copier ni trahir, c'est un exercice périlleux. Pourquoi ?
Oui, périlleux, parce que déjà le tableau, voilà, c'est un tableau très étrange, très mystérieux. C'est un des tableaux les plus mystérieux qui puisse exister au monde.
Je crois que c'est celui qui a été le plus commenté en Occident.
Oui, absolument. Par des intellectuels, par des philosophes, par des écrivains, par des critiques d'art. Et d'ailleurs, tout cela, aujourd'hui, tout cet engouement, eh bien, est toujours resté intact, et cela sans pouvoir déceler la moindre vérité, car ce tableau restera toujours un grand mystère. Tout a été dit, et pourtant tout reste à dire, c'est-à-dire que dans le futur, ce tableau, il sera toujours pareil. Ça sera toujours un objet d'actualité. C'est un tableau d'une complexité indémodable, un tableau unique dans son originalité. C'est comme s'il avait une vie. C'est comme s'il savait garder ses secrets. C'est incroyable.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Cristobal ?
Alors maintenant, on va écouter John Coltrane, Léo. La remise en question, qu'est-ce que je peux faire de plus ?
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec un grand artiste peintre, Cristobal Del Puey. Cristobal, dont nous avons déjà décrit l'œuvre avec des toiles gigantesques, avec des toiles, des réminiscences historiques, avec des toiles très colorées, des ajouts de matériaux, du mapping dont on a expliqué ce que c'était. Et Cristobal, tu as éprouvé le besoin, parce que tu avais été extrêmement ému par l'œuvre de Velázquez, de rendre un hommage à Velázquez avec Las Meninas Forever. Et ça, il y a eu un vernissage le 16 mai dernier au laboratoire d'art contemporain Andata Ritorno, qui a été programmé dans le cadre de la Nuit des Bains. Et on peut encore voir ce tableau, et ce tableau avec le fameux mapping. Donc il faut que nos auditeurs se dépêchent d'aller le voir rue du Stand, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je veux tout de suite dire, dans ta représentation, c'est un tableau plus grand que l'original. C'est un tableau de 3,50 m sur 3,40 m.
Oui, tout à fait, Viviane. Et merci beaucoup pour tes compliments.
Je t'en prie. J'ai été, comme je l'ai dit au début de cette émission, habité par cette œuvre, et j'ai été plusieurs jours à repenser à cette émotion qu'a suscité chez moi ton œuvre à toi. Les Ménines, oui, mais c'est un tableau qui a tellement été commenté que, si tu veux, c'est un peu, je veux dire quelque chose de bête, mais c'est un peu comme la Tour Eiffel, tu vois. Oui. Nous, on n'a plus rien à en attendre. Alors que là, ta revisitation, ça m'a ému jusqu'au tréfonds de l'âme. Voilà. Alors, parle-nous de ce tableau, comme tu l'as refait, comme tu l'as revu, et des personnages que tu as mis dedans aussi.
Oui, oui, bien entendu. Alors, bien sûr, Viviane, nous sommes à la radio et c'est un petit peu compliqué de décrire un tableau comme celui des Ménines. Mais je vais essayer de faire de mon mieux et d'être clair et précis. Voilà, il y a certaines choses dans ce tableau, les Ménines, qui me subjuguent, qui me percutent.
C'est une petite infante, hein, il faut le dire pour les gens,
oui,
qui ne connaîtraient pas,
oui,
le tableau. C'est une petite infante, c'est à la cour du roi Philippe IV d'Espagne.
Voilà, c'est les Habsbourg.
Voilà.
Et on voit justement la fille qui a environ 8 ans. Belle robe, voilà. Oui, et donc, elle est entourée par deux demoiselles d'honneur. C'est les Ménines, d'origine portugaise, qui veut dire demoiselle d'honneur. Et si vous regardez à l'extrême droite, il y a deux bouffons, dont le plus petit embête le chien, taquine le chien à coups de pied. Et derrière les bouffons, on aperçoit encore deux subettes, donc une dame habillée en sœur, en train de converser avec un monsieur, donc on ne sait pas qui c'est, ça reste un mystère. À l'extrême gauche, on aperçoit justement Velázquez, et on devine qu'il est en train de peindre, parce qu'il tient de la main droite un pinceau et de la main gauche une palette. Et il se tient derrière une grande toile de lin. Et bien entendu, voilà, tout commence par cette image. Velázquez, qu'est-ce qu'il peint? Il peint quoi? Il peint la princesse? Ou bien il peint le couple royal? Le couple royal, on ne les voit pas, mais on leur devine parce que il y a le reflet dans le miroir qui se trouve au fin fond de la pièce. On devine le reflet du roi et de la reine. Donc, on suppose qu'ils sont devant le tableau, mais pas dans le tableau. Ils sont à la frontière du visible et de l'invisible. Et en même temps, à côté du miroir, il y a toujours cette porte au fin fond de la pièce, cette porte où l'on devine une silhouette qui est découpée par le contre-jour. Alors, ça aussi, c'est un mystère. Toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce regardent au-devant d'eux, c'est-à-dire avec le spectateur, y compris le bonhomme qui est encore dans de la porte.
Cristobal, tu es tellement pris par ton tableau,
oui,
que tu veux nous décrire tous les personnages, mais il y en a certains que tu as introduits à l'intérieur du tableau qui n'ont rien à voir avec Velázquez. Et je voudrais que tu nous parles de ce Kogi que l'on voit et dont je sais que tu as reçu une délégation d'Indiens Kogi à Genève.
Oui, effectivement.
Et
oui,
que c'est le plus jeune, Louis, qui a posé pour toi.
Oui, tout à
fait. Mais
tu
as eu beaucoup de mal à obtenir que sa famille accepte, oui, qu'il pose pour toi.
Oui. J'ai eu la chance unique de pouvoir accueillir dans mon atelier, pendant une semaine, une délégation de 5 Indiens Kogi, invités par la fondation Chendukwa.
À Genève.
À Genève, bien entendu. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, j'étais en pleine prémisse, composition du tableau Last Millennium Forever. Et j'ai eu l'intention, à ce moment, l'idée de transférer l'image de Kogi sur mon tableau. Et pour cela, je leur ai demandé la permission. Ils ont palabré pendant quelques jours. Et pour finir, ils ont accepté. Pour ma plus grande joie, c'est lui, c'est l'India Kogi le plus jeune du groupe, qui a posé pour moi, pour mon plus grand bonheur.
Et puis, tu as aussi Geneviève Morand, ta compagne, dont j'ai dit tout à l'heure que je pensais que c'était l'une des personnalités les plus brillantes de Genève. Quel couple vous formez tous les deux. Elle a posé et elle est la divine dans ce tableau. Elle est magnifique.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est à son insu. C'est moi qui ai eu l'idée de mettre son image dans le tableau.
Tu as mis ton père aussi, je crois.
Oui.
Et toi, tu t'es mis toi-même avec des lunettes.
Aussi, mais ça, il ne faut pas le dire.
Pourquoi il ne faut pas le dire?
Voilà, je passe incognito, oui, c'est ma façon de dire les choses, de comment j'interprète ce que je fais. Oui, effectivement, Viviane, il y a toutes ces personnes-là qui me sont très chères, très importantes dans ma vie, ou qui l'ont été, et que j'ai ressenti le besoin de les rajouter dans le tableau Les Ménines.
On va écouter maintenant, à nouveau, la musique que tu nous as choisie. Qu'est-ce qu'on écoute?
Voilà. De Paul Young, Come Back and Stay, ça c'est pour quelqu'un qui m'est très cher.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay? Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for.
Come back and stay for good this time.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec un grand artiste peintre, Cristobal Del Puey. Cristobal, qui est quelqu'un de tellement extraordinaire, tellement exceptionnel, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est difficile d'arriver à appréhender ce qu'il fait, parce que ses toiles sont gigantesques, avec des personnages foisonnants. Il y a tellement de personnages, il y a tellement d'objets, il y a tellement de réminiscences historiques. Ce sont des toiles en plus très colorées, je l'ai dit tout à l'heure, avec des matériaux ajoutés, des tissus, des plastiques, des miroirs en aluminium, des bouteilles, des boîtes, des chaussures, n'importe quoi. Et l'ensemble est une vraie transgression. Je crois qu'à un moment où tu étais un jour, où tu étais interviewé, tu as dit « Je suis d'abord et avant tout un peintre, mais j'ai aussi un fort goût pour la transgression. » Explique-nous ça.
Oui, alors voilà, tout à fait. Je peins et j'essaie de faire de mon mieux. Et bien entendu, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Chez moi, c'est la remise en question. Je ne dis pas qu'avec la remise en question, on devient meilleur qu'un autre, mais on s'améliore en soi. Et c'est une façon de se dire, voilà, comment est-ce que je peux faire ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux, ou bien comment est-ce que je peux dépasser mes limites. Et je suis constamment dans une transgression, comme tu l'as dit, Viviane, dans une voie, dans une procédure de toujours...
C'est une lutte, en quelque sorte.
Oui, oui. Il faut se faire violence à quelque part. Et bien entendu, j'ai commencé justement à travailler avec du mastic. J'ai commencé après à coller des choses, de telle façon de donner une certaine force à ce que je fais, d'essayer de donner une certaine vie à mes tableaux, comme s'ils étaient possédés par une âme. Et bien entendu, de fil en aiguille, toujours à cause de cette remise en question, je me suis retrouvé à faire du mapping sur mes tableaux. Et toujours essayer de donner une vie à ce que je fais.
Alors, tu as aussi. Alors, il y a une projection, je crois qu'il y a 6 soirées, donc il faut se précipiter parce qu'il y en a déjà eu un certain nombre.
3.
Il y en a déjà eu 3. Donc, il en reste 3. Donc, nos auditeurs doivent se précipiter pour aller voir les 3 dernières.
Tout à fait, Viviane. Le 23, le 24 et le 25 mai, ce week-end qui vient.
Donc, je répète, c'est dans la galerie de Joseph Farine, qui s'appelle la galerie Andata Ritorno rue du Stand. Il faut absolument aller voir, parce que on n'en sort pas indemne, je le répète. On reste quoi ? On reste sans voix. On est pénétré de ces couleurs, de cette ambiance, de ces spasmes que l'on voit sur cet écran, enfin. C'est un moment très particulier, qui est plein d'émotions, qui rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de réminiscences, qui vous bouleverse. Je ne crains pas de le dire. Donc je conseille à nos auditeurs de courir voir les 2 ou 3 séances qui restent. Ce sont des séances, ce sont des projections qui sont toutes les 20 ou 30 minutes. En fait, c'est assez court, mais il faut vraiment, vraiment aller voir ça. Et je me suis posé la question, pourquoi revisiter un peintre ? Et pourquoi ne pas, comme lorsque tu avais fait ton triptyque, pourquoi ne pas, ou d'autres tableaux, pourquoi ne pas faire un assemblage de ce qui t'a frappé toi, ce qui t'a ému toi, ce qui t'a remué toi ? Tu sais si bien le faire.
Oui, c'est vrai que les Ménines a toujours été un tableau qui m'a beaucoup, beaucoup fasciné. Il est très étrange et ça m'a toujours percuté, ça m'a toujours obsédé. Mais il n'y a pas plus tard qu'en début de cette année, j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Stéphane Sorla et qui était référence dans le monde du cinéma, du film documentaire des grands artistes peintres. Il a déjà fait Bosch, qui a été un très beau film. Il y a 2 ans, il a fait, avec la participation de Jean-Claude Carrière, un film remarquable sur Goya. Et cette année, il a l'intention de réaliser un film sur le grand peintre Velázquez. Et bien entendu, il m'a demandé de m'incarner dans ce film avec mon mapping Les Ménines Forever comme peintre contemporain sous l'influence de Velázquez. Donc voilà, Viviane.
C'est un défi que tu ne pouvais pas manquer.
Voilà.
En gros, c'est ça.
Absolument.
C'est un. Oui, je comprends maintenant mieux. Est-ce que tu as l'intention de faire d'autres peintres comme ça ou est-ce que tu vas te borner à Velázquez?
Non, je vais me borner à Velázquez, absolument.
Parce que c'est celui-là qui t'a remué, c'est celui-là qui t'a fait pleurer lorsque tu l'as vu en vrai, enfin quand oui. Tu as vu l'original au Prado.
Tout à
c'est
fait.
Celui qui t'a donc inspiré.
Oui.
Et
oui.
Tu n'as pas envie, en fait, d'en faire un mode de peinture ou un
non.
mode d'expression, de t'attaquer aux œuvres des grands peintres.
Non, non. Comme tu le sais, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un critique d'art, je ne suis rien de tout ça. Je travaille, je vis uniquement par mon système cérébral, par mon émotionnel. Et au niveau émotionnel, c'est-à-dire que voilà, les Ménines, Las Meninas, c'est un tableau qui m'a toujours obsédé, qui m'a toujours percuté. Et à chaque fois qu'on le regarde, c'est toujours d'autres questions qui surgissent. C'est quelque chose qui ne me lâche pas. Il est dans ma tête et Velázquez n'est jamais très loin.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Eh bien maintenant, on va écouter un morceau de musique de Philip Glass, étude numéro 2.
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec un grand artiste peintre qui habite Genève, qui est né à Berne, qui est d'origine espagnole et qui s'appelle Cristobal Del Puey. Cristobal, on parle depuis tout à l'heure de ta dernière œuvre, Las Meninas Forever, un peu d'espagnol, un peu d'anglais. Et je voudrais que tu décrives ce tableau, parce qu'en fait, c'est pas seulement un tableau. C'est bien sûr une réminiscence, mais il y a des tableaux dans le tableau. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est animé à la fois par le mapping, la lumière, c'est animé également par de la musique qui a été composée pour accompagner cette œuvre. C'est quelque chose d'émotionnant, d'émouvant, de formidable. J'incite encore une fois nos auditeurs à aller voir, mais je voudrais que tu leur décrives un peu plus les Ménines revisitées par Cristobal Del Puey.
Voilà, alors effectivement, Viviane, c'est quelque chose qui n'est pas facile, n'est pas aisé d'expliquer un tableau comme les Ménines et pourquoi et comment ma façon personnelle de le revoir et de le revisiter. Je pense que tout a commencé, c'est l'une des choses, bien sûr, c'est le miroir. C'est ce fameux miroir qui se trouve au fin fond du tableau, de la pièce dans laquelle se trouve la princesse. Et de ce tableau, on devine le reflet du couple royal. C'est-à-dire que le roi et la reine ne sont pas dans le tableau, ils sont devant le tableau. Ils sont entre le visible et l'invisible. Et c'est grâce à ce miroir qu'on sait que le roi et la reine sont là. Alors, bien entendu, après, il y a toute une théorie de savoir si Velázquez peignait le roi et la reine ou sinon peignait la princesse. Mais moi, personnellement, les miroirs me fascinent énormément. Et c'est à partir de ce miroir de Velázquez que j'ai conçu, j'ai pris ce miroir et je l'ai agrandi dans mon tableau et qui a pris des proportions gigantesques. Et donc, la plupart des gens qu'on voit justement dans Las Meninas Forever ne sont pas dans le tableau, mais sont devant le tableau. Et par un concours de circonstances, si on regarde bien, il y a tout un jeu, un dialogue entre miroirs dans ce tableau. Voilà. Velázquez était quelqu'un de très étrange, de très mystérieux, et il adorait aussi ajouter une certaine confusion. C'était un peintre cérébral, c'était un peintre, un intellectuel, je pense. Je répète, je ne suis pas ni intellectuel, ni philosophe, ni écrivain, mais c'est le ressenti que j'ai d'après mon point de vue personnel. Et c'est pour cette raison-là que je suis parti avec ce scénario de miroir.
Alors, plus que les miroirs, on a l'impression que tout bouge tout le temps. Et il y a aussi une partie en haut qui est vide au départ et qui se meuble. Et je voudrais que tu en parles de cette partie, parce qu'elle est étrange et elle participe de l'émotion qu'on a. Il y a des rectangles en haut qui sont vides au départ, encore
tout
une
à fait,
fois.
Tout à fait.
Là, et que tu remplis.
Oui, tout à fait. Là, on parle du plafond des Ménines. Et c'est ça qui est très étrange de ce tableau aussi. On en a déjà parlé, il y a beaucoup de gens qui ont parlé là-dessus, par rapport à la théorie de la composition. La moitié du tableau, on voit les personnes, et l'autre moitié, c'est juste le plafond. Et beaucoup de gens, des spécialistes, ont dit que, justement, Velázquez était capable de peindre l'atmosphère, l'ambiance, même l'air qui se trouve dans cette pièce. Et ça, c'est incroyable, c'est hallucinant. Et oui, effectivement, avec le mapping, on peut donner une certaine ambiance. Dans ce plafond, dans ces cadres qu'on aperçoit comme ça, dans l'ombre, et mettre une certaine osmose, une certaine ambiance.
Ça participe beaucoup de l'émotion. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-haut. On a l'impression que tu peins des sortes de grands nuages, de grandes traînées plutôt que des nuages.
Oui, des taches de peinture, des mouvements de pinceau. Oui, il se passe quelque chose. C'est juste pour mettre une certaine ambiance par rapport au reste du mapping. C'est-à-dire, moi, je me suis concentré, ce que j'ai fait la demande aux personnes qui ont collaboré avec moi, c'est de se concentrer sur les personnes, c'est-à-dire la partie basique du tableau, où il y a les gens.
Alors, l'interprétation de l'œuvre, j'ai lu plusieurs textes parce que déjà, ça fait couler beaucoup d'encre, il faut que nos auditeurs le sachent. Et cette interprétation de l'œuvre Las Meninas Forever, donc ton tableau, il y a déjà des interprétations variées, que ce soit les historiens, les amateurs d'art, les anthropologues, les sociologues, les philosophes. C'est incroyable parce qu'il y a très peu de temps que tu as rendu publique cette œuvre et déjà, Elle a un énorme retentissement et elle intéresse beaucoup de gens qui chacun ont leur prisme pour l'analyser.
Très
et en cela, très elle juste. Est très différente de n'importe quelle œuvre.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, mon obsession, moi je peins souvent les gens, c'est mon obsession primaire. Pourquoi ? Parce que les gens, nous sommes tous différents. Nous avons tous une façon de voir, de ressentir, de vivre le monde dans lequel nous vivons. Bien sûr qu'il y a déjà eu Picasso, Francis Bacon, Manet, mais ils ne sont plus là. Et pourtant, on continue à parler de ce tableau. Nous avons tous une façon, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, de regarder les choses. Et alors, bien sûr, chacun de nous, quand on regarde un tableau pareil, tel que les Ménines, il y aura toujours des choses à dire. Et pourtant, tout a été dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pourtant, tout reste à dire. C'est un tableau incroyable, complexe, mystérieux.
Cristobal, on va redonner l'adresse, donc rue du Stand. On va redire quand c'est visible encore, rapidement. Il faut que nos auditeurs y courent.
Oui, tout à fait. Donc c'est le 23, le 24 et le 25 mois de mai. C'est ce week-end qui s'approche à la galerie Laboratoire Andata Ritorno. J'aimerais donc remercier Joseph Farine et aussi bien Boris Edelstein, un des fondateurs du Mapping Festival, qui, grâce à sa collaboration, on a pu mener à terme cette performance.
Je vais terminer cette émission, mon cher Cristobal, sur une appréciation qui est donnée par Néma Giorno, qui est docteur en histoire de l'art. Elle dit « L'œuvre de Cristobal Del Puey, incluant la peinture monumentale aux divers matériaux, augmentée d'art numérique, de compositions musicales où se mêlent air ancien et moderne, bruitage et parole, peut, à notre avis, être considérée comme une œuvre d'art totale. » Ça sera mon dernier mot, mon cher Cristobal, pour inciter nos auditeurs à courir pour ces deux dernières démonstrations, performances.
Performance, oui.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Pour d'autres aventures.
À très bientôt.
Et on remercie Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés aujourd'hui.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.